L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Ce matin, vous pourrez aller dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles, dans Romains chapitre 10 et le verset 17. Romains chapitre 10 et le verset 17. Ce matin, le thème, c'est une vie de foi équilibrée. Dites équilibrée. Une vie de foi équilibrée. Et c'est super important pour nous de marcher dans la foi, mais d'une façon équilibrée. Vous savez, une des choses que je crois de tout mon cœur, c'est que le Seigneur nous donne le privilège de proclamer sa parole et croire sa parole et relâcher notre foi pour voir sa parole s'accomplir. Il y a tellement de potentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous croyons la parole de Dieu, mais en même temps, il y a toujours un danger. Si les gens tombent dans un extrême, si les gens tombent dans une doctrine bizarre, peu importe, ça va discréditer le message et les gens ne pourront pas recevoir la parole de Dieu. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est on veut faire un retour sur des choses super importantes pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais en même temps, on veut s'assurer d'être équilibré. Et il y a des gens qui vont dire, est-ce que c'est vraiment important d'être équilibré dans la vie? Bien, comme je viens de dire, on peut faire des dommages dans le corps de Christ. On peut faire des dommages à l'Église lorsque nous sommes déséquilibrés. En fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, quand ils entendent un mensonge, ils vont discerner rapidement, « Oh, ça, c'est faux, ça. » Mais quand on apporte quelque chose de vrai, mais à l'extrême, qu'est-ce qui se passe? C'est que des gens qui vont être blessés par l'extrême vont rejeter le tout. Et c'est ça qui se passe souvent. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est croire la parole de Dieu d'une façon équilibrée. Dites équilibré. Et c'est ça qu'on va faire, et c'est ça qu'on va prêcher à cette Église, et c'est ça qu'on va vivre ensemble. L'équilibre au nom de Jésus. C'est super important. Donc, ensemble, on va juste pencher nos têtes et on va remettre ce temps au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi au nom de Jésus et on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour le privilège que nous avons aujourd'hui de regarder dans ta sainte parole et de recevoir aujourd'hui l'instruction qui vient de ton Saint-Esprit. On te remercie que chaque personne dans cette place reçoit de toi et que chaque personne va quitter cette place bénie et édifiée. On le prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, une des choses importantes pour nous, c'est de comprendre, justement, il y a des révélations que le Seigneur a données à l'Église de Jésus-Christ. Un des problèmes, lorsque le Seigneur a agi à un certain moment dans l'histoire de l'Église, on a vu, c'est comme on dit en anglais, un stream, ou en français, des courants de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a amené une restauration concernant une certaine doctrine, selon une compréhension des Écritures. Qu'est-ce qui s'est passé souvent? Les gens ont reçu une chose de Dieu, et absolument c'était de Dieu. Mais après, ils ont dit, voilà, on va bâtir notre autel, et on va s'établir autour de cette révélation-là. Et puis, voilà, on va définir Dieu, on va définir notre vie chrétienne à partir de cette doctrine-là. Et le danger là-dedans, c'est que quand Dieu continue à envoyer la révélation, bien nous, on reste pris devant l'autel qu'on a établi. Et c'est ça que le problème que nous avons eu dans le corps de Christ. Par exemple, aujourd'hui, je vais juste partager certaines choses, mais je trouve qu'elles sont super importantes. Admettons, vous avez reçu le Seigneur dans une église pentecôtiste. Bien, ça peut être merveilleux, vous avez reçu le Seigneur Jésus à ce moment-là, mais si vous avez établi l'autel, là, et vous avez dit, Dieu ne fera plus jamais rien d'autre qu'après le mouvement de la Pentecôte des années 1900, début 1900, bien, tout ce que le Seigneur a fait après, bien, ce n'est pas pour vous, parce que pour vous, vous êtes arrêté là. Si vous avez été sauvé dans une église baptiste et vous dites, le Seigneur a agi dans l'église baptiste à ce moment-là, et puis Dieu ne fera plus jamais rien après l'église baptiste, bien vous passez à côté les œuvres de Dieu aujourd'hui. Amen. Si vous avez été touché par le mouvement prophétique, est-ce qu'il y a eu des choses de Dieu dans le mouvement prophétique? Absolument. Le Seigneur a restauré des vérités au corps de Christ. Mais si vous dites, bien moi je suis défini par le mouvement prophétique, vous passez à côté. Par exemple, vous avez peut-être reçu des enseignements du mouvement de la foi, un mouvement qui prêche des choses de la foi. Et moi je crois absolument que dans le corps de Christ, on avait besoin de vivre une restauration sur des vérités, entre autres sur la bonté de Dieu. Mais si on se campe là et puis on dit « Le Seigneur ne fera plus jamais après 1975, là où il y a eu une restauration de certaines vérités, on va passer à côté du but. » Amen. Amen. Une des choses que le Seigneur nous appelle à faire, c'est d'être mature et de discerner ce que le Seigneur fait. Moi, je peux voir les courants qu'on a eus dans le corps de Christ. Je peux voir qu'il y a eu des streams, ou on peut dire des courants de l'Esprit de Dieu, et je vois, ça c'était Dieu, ça c'était bien. Dieu a amené une restauration, Dieu a béni à ce moment-là. Mais continuons et voyons ce que le Seigneur va continuer à faire, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, nous avons un Dieu vivant, et puis oui, Dieu parle, Dieu a parlé à ses enfants dans le passé, mais il va continuer à parler. Amen. Le danger, c'est de s'établir devant un courant de Dieu et dire « c'est bien, mais là, quand le courant arrête ou quand le Seigneur fait quelque chose de nouveau, si on ne reconnaît pas ce que le Seigneur fait, on va vraiment passer à côté des belles choses que le Seigneur veut pour nous. Et en plus, on va avoir un esprit religieux parce qu'on va définir notre vie chrétienne avec ce courant-là. » Amen. Donc, une des choses qu'on veut voir ce matin, c'est comment être équilibré dans notre foi. Donc, notre foi ne sera pas basée sur une dénomination, sur une doctrine. Notre foi va être basée sur la parole de Dieu. Amen. Donc, ce qu'on veut faire ce matin, c'est revenir à la base et on comprend que ce livre, c'est pas juste n'importe quel livre, c'est la parole de Dieu. C'est le livre d'amour que Dieu nous a envoyé pour qu'on puisse, c'est une lettre d'amour. C'est souvent comme ça que je parle de la Bible. C'est une lettre d'amour que Dieu nous a envoyé pour qu'on puisse découvrir la splendeur de qui Dieu est et ce qu'il a en réserve pour nous. Quand on lit la Bible, on est émerveillé et on est béni parce qu'on dit, waouh, le Seigneur m'a tellement aimé qu'il m'a envoyé son Fils pour mourir à ma place. Ça, c'est la plus grande révélation. Je peux juste vous dire quelque chose. J'ai compris ce message-là quand j'avais environ 3 ou 4 ans. Mes parents m'ont dit, c'était ma mère, je crois, « Joël, Jésus veut te pardonner tes péchés. Il veut juste que tu lui demandes de te laver de tes péchés. » Et je peux vous dire, à 3 ou 4 ans, c'est certain que j'avais pas fait grand-chose, hein, comme vous pouvez imaginer. Mais le principe était là. C'était juste d'être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il avait fait, reconnaître que Jésus avait payé le prix pour moi à la croix et j'ai demandé pardon pour mes péchés. Et c'est aussi simple. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'être pardonné de nos péchés. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Amen. C'est pas compliqué. C'est vraiment simple d'être sauvé, devenir un enfant de Dieu, c'est demander pardon. Ceux qui vont au ciel, c'est les pardonner, tout simplement. Et ce matin, ce qu'on va faire, on va aller ensemble dans Romains chapitre 10, le verset 17, un verset que vous connaissez tous probablement très bien. On va voir, si on veut parler d'une vie de foi équilibrée, on doit découvrir la source de la foi. Comment trouver la foi? Dans Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si vous voulez être une personne de foi, vous devez être une personne de la parole de Dieu. C'est simple. Une personne de foi, c'est une personne qui croit la parole de Dieu, tout simplement. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, il est écrit dans la Bible du Sommeur, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. » Ou dans Louis II, c'est dit, « Ce qui contribue, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout en Dieu et dans sa parole. Lorsque nous prenons le temps de découvrir les promesses de Dieu, nous avons tout en lui pour vivre la vie chrétienne de foi. » Amen. Donc, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Cette fois-ci, on peut se poser la question, mais comment maintenant trouver l'équilibre dans la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut vraiment vivre une vie de foi équilibrée? Parce que tout le monde va dire, bien, moi, je suis équilibré. Si vous parlez avec quelqu'un, OK, quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit un enfant de Dieu, et là, vous jasez avec eux, et puis vous leur posez la question, toi, est-ce que tu es équilibré dans ta foi chrétienne? Pensez-vous que quelqu'un va vous dire, non, moi, je suis vraiment du type extrémiste, déséquilibré? Et là, l'autre personne qui est vraiment équilibrée, oui, moi, je suis équilibré. Mais d'habitude, vous demandez à l'extrémiste déséquilibré, « Toi, est-ce que tu es équilibré? » « Ah, ben oui, 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 les autres sont déséquilibrés. » OK? Mais tout le monde se pense équilibré, n'est-ce pas? Tout le monde se pense équilibré. Et c'est ça le problème. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut voir ce matin, si vous êtes déséquilibré, êtes-vous prêt à revenir sur la bonne piste? Avez-vous l'humilité aujourd'hui de dire, « Je crois que le Seigneur peut encore me redresser et m'emmener sur la bonne piste. » Amen. Eh bien, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'on va tous se laisser guider par le Saint-Esprit pour vraiment marcher dans l'équilibre de la parole de Dieu. Donc, on vient de voir la source de la foi, c'est la parole de Dieu, et la source de l'équilibre, c'est encore une fois dans la parole de Dieu. Donc, une des choses qu'on veut voir maintenant, c'est dans Hébreux chapitre 5 et le verset 14. Une des choses que je dois vous dire pendant que vous êtes là en train d'aller dans vos bibles, concernant l'équilibre, il y a des fois des gens qui disent, bien moi je crois certains passages de la parole de Dieu, et si je ne vois pas l'exaucement de mes prières, mais à ce moment-là, ce n'était pas la volonté de Dieu, et on se crée une théologie pour expliquer les raisons pourquoi nous n'avons pas reçu les promesses de Dieu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? On voit la parole est claire, elle est là, la promesse est là, et la personne ne l'a pas reçue, donc on doit obligatoirement créer une théologie, une explication pour dire, ben la raison pourquoi cette promesse-là n'est pas pour moi, c'est pour X, Y, Z. Voyez-vous? Souvent, c'est comme ça. Souvent, quand on ne comprend pas, on va s'inventer une théologie. Je vais vous donner pendant juste quelques instants concernant la guérison divine. Vous savez, la parole de Dieu est très, très claire selon le psaume 103, qu'il guérit, le Seigneur Dieu, guérit toutes nos maladies. L'avez-vous lu dans votre Bible? Il guérit toutes nos maladies. Mais vous parlez avec un chrétien qui n'a pas pris le temps peut-être d'étudier à fond le thème de la guérison divine, et puis on va dire, oui, c'est écrit, mais... C'est écrit, mais des fois, Dieu veut que ses enfants soient malades. Mais on ne le dira pas comme ça, on va dire, ben des fois, c'est sa volonté, des fois, ça ne l'est pas. Donc, ça peut sembler cohérent, faire du sens, et dire, c'est vrai, ben regarde, on a prié pour tante Judith, puis elle n'a pas été guérie. Donc, peut-être, cette fois-là, c'était la volonté de Dieu que tante Judith soit malade. OK? Donc, on a ce raisonnement-là. Et là, quand on dit, quelqu'un, admettons, qui dit, « Mais moi, je crois que tante Judith, là, je crois que Dieu voulait guérir tante Judith. » Ah, mais là, ça, c'est extrémiste parce que, écoutez bien, on va dire ça, vous êtes déséquilibré ici à ce moment-là parce que vous croyez que c'est toujours la volonté de Dieu. Et pourtant, regardez, on voit que ça n'arrive pas toujours. Il y a des gens comme ça qui vont même célébrer le fait quand on prêche un message pendant 45 minutes sur la puissance de Dieu, sur la guérison divine, mais là, après, on va vous donner 15 minutes d'équilibre pour vous dire toutes les raisons pourquoi peut-être ça n'arrivera pas pour vous. Et là, on voit les commentaires des gens qui vont dire « Ah, finalement, un message équilibré ». Mais aujourd'hui, je peux vous dire, on peut croire la parole de Dieu sans inventer une théologie pour l'excuser, et demeurer dans l'équilibre. Aujourd'hui, mon cœur, pour vous, c'est que vous puissiez voir, je peux être équilibré dans ma foi. Concernant la guérison divine, vu que je vous en ai parlé, la parole de Dieu est très claire. Dieu veut guérir tout le monde parce que Dieu, le Père, c'est un Père rempli de compassion. Aujourd'hui, c'est la fête des Pères. Et je peux demander la question au Père, aimeriez-vous que vos enfants soient malades? Et un bon Père dans cette église dirait, non, je veux que mes enfants soient en santé. Amen? Amen. Bon, mais là, dans le monde chrétien, qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'on n'a pas toujours vu des guérisons, on a dit, mais des fois, Dieu veut qu'on soit malade, des fois, Dieu veut qu'on soit en santé. Et ce qu'on a fait, on a manqué de maturité, parce qu'au lieu de dire, Dieu a dit ça, et il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui demeurent un mystère pour nous, au lieu de se reposer dans la foi et dire, les mystères, je les laisse entre les mains de Dieu et je vais continuer à croire dans le caractère de mon Dieu comme étant un bon Dieu d'amour et aussi je vais poursuivre dans ma marche chrétienne même si je ne comprends pas tout et même si je ne suis pas capable de tout expliquer. Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à croire sa parole même s'il y a des choses qui demeurent un mystère pour nous. C'est important ça. C'est super important qu'on puisse dire, Dieu l'a dit, je crois ce que Dieu a dit. Oui, mais, pourquoi ci, pourquoi ça? Je ne le sais pas, ça. Mais ça, on demandera au Seigneur plus tard. Et des fois, le Seigneur nous révèle des choses même aujourd'hui. Moi, ma position, savez-vous c'est quoi? Ma position, c'est que Dieu dit toujours la vérité. Et même si Joel Spinks ne comprend pas des choses, ça ne dérange pas. C'est aussi simple que ça. Ma position demeure, la parole de Dieu dit vrai. Et savez-vous ce que je vais faire? Je vais marcher dans l'équilibre de la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je crois Dieu, c'est ça qui est ça. Amen. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Et moi, je crois, ce qui réjouit le cœur du Père, c'est lorsque les enfants de Dieu peuvent dire, je crois mon Dieu, je crois mon Seigneur, je crois Dieu. Et puis, je me repose dans le fait que mon Seigneur est bon. Je n'inventerai pas des théologies qui vont expliquer toutes sortes de choses. Je n'ai pas besoin de tout comprendre parce que mon Dieu, ce n'est pas mon cerveau. Mon Dieu est plus grand que moi. Essayez de comprendre Dieu. Essayez pendant quelques instants. Dieu n'a jamais eu de début, il n'aura jamais de fin. Dieu est éternel. Pouvez-vous comprendre et saisir la grandeur de notre Dieu? Non, c'est impossible. On doit croire Dieu par la foi, par sa parole. Amen. Et en plus, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'on en voit des personnes recevoir leur guérison. On voit des personnes délivrées. Ça me réjouit voir les témoignages qui rentrent, des personnes qui ont été sauvées, qui ont été guéries, qui ont été transformées. Mais l'ennemi, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse tomber dans l'extrême du doute et du raisonnement. Ça, c'est l'extrême où on ne croit plus la parole de Dieu, où on croit plus les expériences. Et c'est là, c'est mauvais pour nous. Dieu ne nous appelle pas à être guidés par les circonstances. Dieu nous dit, c'est ma parole qui dit toujours vrai. Amen. Et c'est ça la maturité. Dieu nous appelle à être matures ensemble, croire sa parole en tout temps. Amen. Et en plus, quand on laisse le mystère entre les mains de Dieu, on dit, Seigneur, ça je ne comprends pas en ce moment, je ne comprends pas, mais je t'aime et je te fais confiance et je vais continuer à croire ta parole. Ça va bénir le cœur de Dieu. Et en même temps, savez-vous ce que ça va faire entre nous? Il va toujours avoir cette compassion dans l'Église et la grâce, parce qu'on n'est pas là pour juger les uns et les autres. On n'est pas là en tant que juge, on est là en tant que frères et sœurs pour pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Ça fait de nous une Église équilibrée dans l'amour. Amen. Il y a tellement de potentiel pour nous si nous pouvons marcher dans l'équilibre. Maintenant, on va aller dans Hébreux chapitre 5, verset 14. Comment trouver l'équilibre dans la parole de Dieu? Parce que comme je viens de dire, tout le monde va dire, bien, on est équilibré. L'équilibre se retrouve dans l'expérience de la parole. Dire de l'expérience de la parole. Une des choses, c'est une chose importante qu'on doit comprendre, c'est d'avoir de l'expérience. Après un bout de temps, comme on a grandi dans les voies de Dieu et on a vu le Seigneur agir dans nos vies, on a grandi dans les voies et puis on s'est mis à étudier la parole de Dieu, on a appris des choses. Bien là, cette expérience de vie avec Jésus nous aide à atteindre la maturité et marcher dans l'équilibre. Dans Hébreux 5, 14, il est écrit, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Amen. Je vais le relire. Ça dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y a un discernement. Et quand on dit l'usage à discerner, ça a pris un certain temps, prendre ce temps-là pour discerner. C'est pour ça que dans 2 Timothée 3, 6, nous voyons qu'un prédicateur, un évêque, un pasteur, ne devrait pas être un nouveau chrétien, un nouveau converti. Ça devrait être quelqu'un qui a une maturité dans le Seigneur. Amen. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça, des fois, quand on voit des nouveaux croyants qui sont excités et qui veulent servir le Seigneur, ça me réjouit. Je me dis, oui, c'est merveilleux parce que la personne a un cœur pour Dieu, mais en même temps, il faut laisser la personne maturer. On doit leur donner le temps de recevoir pour par la suite pouvoir donner et d'une bonne façon dans l'amour du Seigneur et avec équilibre. Donc ça, c'est super important. Une autre chose, donc on voit l'équilibre se retrouve dans l'expérience de la parole et l'autre chose, l'équilibre se retrouve dans une bonne interprétation de la parole de Dieu. Vous avez dit, oui, mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si on a une bonne interprétation de la parole de Dieu? Une des choses que le Seigneur nous appelle à faire en tant que croyant, c'est de lire la Bible du début jusqu'à la fin. C'est de connaître la parole de Dieu. Si on prend le temps de lire la Bible, connaître ce que la Bible dit, l'interprétation est assez merveilleuse et simple parce qu'on a pris le temps d'avoir le conseil de Dieu. Le problème, c'est quand on lit juste des portions et on sort toujours juste des portions de la parole de Dieu. Et en plus, si on a rajouté d'autres ouvrages, par exemple, je vais vous parler pendant quelques instants, vous connaissez, il y a toutes sortes d'organisations dans le monde, des religions, ils vont dire, oui, lisez la Bible, mais vous devez lire notre Bible ou notre livre supplémentaire pour arriver à l'interpréter correctement. Mais à ce moment-là, on a mis un filtre pour lire la Bible. On a mis un filtre devant la Bible. Et vous savez, si moi, si je vous écris une lettre aujourd'hui, admettons que vous m'avez invité à manger chez vous, et puis là, moi, je vous écris une belle lettre disant « J'ai vraiment aimé mon souper chez vous, c'était super le fun, merveilleux. » Mais il y a quelqu'un d'autre qui rajoute un paragraphe par la suite qui dit « Mais vos enfants étaient détestables, le décor était laid, votre maison est laide, votre épouse n'est pas gentille. » L'interprétation de ma soirée va être différente, croyez-vous ça? Ben, c'est la même chose qu'on a fait avec la Bible. Dieu nous envoie un message d'amour, mais il y a quelqu'un d'autre qui rajoute des livres et toutes sortes d'affaires, et vous devez le passer par nos livres pour comprendre le message. Mais ça, c'est contraire à ce que Dieu veut. On prend la parole de Dieu dans son contexte historique, on se laisse imprégner, et là, on connaît l'ensemble de la parole, et là, on peut prêcher connaissant ce que Dieu a dit. OK? Donc, c'est important. Dans le texte qu'on veut voir, là, c'est dans Actes, chapitre 20, verset 27. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Donc, c'est le conseil de Dieu au complet. C'est ça qui est super important. Il y a des gens qui vont vous amener un message, mais qui n'ont pas reçu la révélation personnelle pour eux, sont là pour répéter ce qu'ils ont entendu d'autres personnes dire. Et c'est là où on peut tomber dans un déséquilibre. Quelqu'un prêche sur la bonté de Dieu, mais ils n'ont pas vraiment fait le tour de la parole. Donc, il y a toutes sortes de passages dans l'Ancien Testament qu'ils ne connaissent pas. Et tout d'un coup, ils vous prêchent une chose et puis ils vont même aller à l'encontre de certains passages. Ça, c'est un déséquilibre. Ce que Dieu nous appelle à faire, si vous voulez être une personne équilibrée dans votre foi en Jésus, c'est de prendre le temps de lire la Bible. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Vous êtes tous d'accord? C'est pas compliqué jusqu'à date. La doctrine n'est pas compliquée. Une personne de foi, c'est une personne de la parole. Une personne équilibrée, c'est une personne de la parole. Point 1, point 2. Si vous n'avez rien retenu, parole A et B, parole. Amen. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, je vais vous donner l'exemple où nous avons passé à côté l'équilibre à un certain moment. Je vais vous parler pendant quelques instants de la confession de la parole de Dieu. Avez-vous déjà entendu parler de la confession de la parole de Dieu? Amen. Si on a parlé de la confession, la majorité des gens, quand on parle de la confession au Québec, on va penser toujours à aller à la confesse, demander pardon pour nos péchés. Est-ce que vous pensez à ça des fois, ou peut-être avant, quand on a parlé de confesser, vous pensez, OK, ben, je vais aller confesser mes péchés. Mais si on dit, c'est ça la confession, c'est juste toujours, au négatif, confesser les péchés, on est déséquilibré. Parce qu'on n'a pas l'ensemble de la parole de Dieu. Oui, pouvons-nous confesser nos péchés? Oui, n'est-ce pas? Amen. Merci, maman. Pouvez-vous confesser vos péchés? Ah, là, c'est encourageant, vous êtes là. La confession ne se réfère pas seulement à la confession des péchés, mais on voit dans Romains chapitre 10, je vous invite à tourner avec moi dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10, on va voir ensemble les autres sphères de la confession, les autres dimensions de la confession. Dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10, ici, nous lisons, « La parole est près de toi. » Vous avez vu, on a déjà mentionné que la parole est la solution à ce que nous avons besoin pour trouver l'équilibre. Ici, nous voyons, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » L'apôtre Paul ne prêchait pas un message de défaite, ne prêchait pas un message comment le Seigneur voulait venir vous enlever votre job, vous enlever votre maison, vous enlever toutes vos choses, il voulait vous ruiner votre vie. Ce n'était pas le message de l'apôtre Paul. Amen. Mais il venait nous donner un message pour bâtir notre foi, pour croire Dieu. Ici, on voit, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche, quoi, tous vos péchés? Non, dans ce cas ici, ça nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, c'est une bonne confession. Ce n'est pas juste confesser nos péchés. Ici, c'est de dire, on confesse notre foi en Jésus. Et si vous confessez dans votre cœur, vous croyez de tout votre cœur que c'est vrai, là, lorsque vous confessez de votre bouche que vous croyez en Jésus, ici nous lisons dans la parole de Dieu que vous allez être sauvé. Ça dit, tu seras sauvé. Amen. C'est pas trop compliqué jusqu'à présent. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, l'endroit où on est pardonné et déclaré juste, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et on a souvent dit que le salut, c'est pas juste le pardon des péchés. Ça, c'est la chose la plus importante, être pardonné, parce que là, on peut aller au ciel par la suite. Mais c'est pas juste le pardon des péchés, c'est un forfait divin en Dieu, où Dieu prend soin de nous comme ses enfants, et puis il met le shalom sur nous, rien ne manquant, rien de brisé, comme nous connaissons le mot shalom. Proverbe 18, 21. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu, on peut confesser pour devenir un enfant de Dieu. On confesse notre foi en Jésus. Non seulement est-ce qu'on peut devenir un enfant de Dieu par la confession, mais aussi on peut accéder au forfait, au salut, par la confession. et c'est au positif. Avez-vous remarqué ça ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Et une autre chose importante qu'on retrouve dans Proverbes 18, verset 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, si vous parlez la vie de Dieu, vous parlez la vie de Dieu sur vos enfants, vous parlez la vie de Dieu sur vos finances, vous parlez la vie de Dieu sur votre corps, gloire à Dieu, vous êtes en train de parler la vie. Et Dieu donne la vie, et Dieu amène une restauration. Vous êtes dans une position où Dieu peut agir, intervenir et bénir. Ça, c'est merveilleux. C'est la parole de Dieu qu'on vient de lire ensemble. Êtes-vous d'accord? Vous avez tous lu ça avec moi? Gloire à Dieu. Bon, ça, c'est merveilleux. Je viens d'établir juste des choses qu'on a passées à côté. Donc, souvent, le déséquilibre, ça a été la confession, c'est juste le péché. Mais là, on a amené une restauration que dans la confession, il y a d'autres dimensions et on en voit des belles dimensions, des dimensions positives. Bon, là, êtes-vous prêt à aller au déséquilibre? Êtes-vous prêt? L'autre équilibre, pas l'autre équilibre, l'autre extrémité, si on veut. La confession démesurée ou non biblique produit un témoignage étrange. Et c'est ça qu'on veut voir pendant quelques instants. Parce que savez-vous, si on peut être déséquilibré, le diable se réjouit autant que si on était dans l'ignorance. Il est aussi content. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le message est discrédité. Là, les gens ne peuvent plus recevoir le message parce que, de un, là, vous croyez quelque chose de vrai, mais à l'extrême, donc, les gens ne peuvent pas croire. Ce que je crois que Dieu veut pour cette Église, c'est qu'on puisse croire la parole de Dieu de tout notre cœur, mais d'une façon équilibrée, qui va honorer le Seigneur. Ensemble, on va honorer le Seigneur et on va voir des fruits dans nos vies. C'est ça qu'on veut, c'est les fruits. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, ce qu'on doit comprendre maintenant, certains pensent qu'une bonne confession, la parole de Dieu, c'est de faire la négation de nos besoins. C'est de faire une négation de nos besoins. Croyez-vous, selon la parole de Dieu, que c'est ça qu'on croit? C'est de faire l'abstraction, la négation. On n'a aucun besoin, on ne veut jamais dire nos besoins dans la prière parce que ça serait de faire une confession négative. Non, c'est pas ça qu'on veut. Je vous invite maintenant à tourner dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, on va aller au verset 46 et 52. Marc, chapitre 10, 46 à 52. Donc, certains pensent qu'une bonne confession, la confession biblique, c'est d'avoir une négation. C'est de nier les problèmes, nier les besoins qui sont là. Une négation. Dans Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Je vous lis le texte. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Pourquoi pensez-vous que Bartimée criait comme ça, « Aie pitié de moi! » Bien parce que c'est un mendiant aveugle. Voyez-vous, il avait un besoin. Amen. Bartimée avait un besoin. Et là, dans son besoin, il a crié. Il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle! » Wow! Imaginez si vous étiez dans une situation comme ça, dans le besoin, et là, les disciples du Seigneur Jésus vous diraient, « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle! » Hey, ce serait une belle réaction. Moi, je serais, oh, Jésus m'appelle, oh, par mon nom. Super. Ici, on voit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ça n'y a pas pris 2 heures, penser, oh, est-ce que je devrais me lever, aller le voir? Je ne sais pas. Oh, j'avais prévu de manger une poutine. Ou j'avais prévu de faire ça. Ça change un peu mon horaire. Non, Jésus a appelé. Et puis là, Bartimée, il s'est levé tout d'un coup. Là, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Remarquez, Jésus est là devant un aveugle, mendiant, « Que veux-tu que je te fasse? » Ben, j'ai besoin d'augmentation de salaire. Non, ce n'est pas ça sa requête. Rabouni, maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue! » C'est ça qu'il avait besoin. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est merveilleux, c'est beau, c'est une belle histoire. On voit la compassion de Jésus. On voit ici, le Seigneur Jésus a étendu sa main pour la guérison. En fait, ici, on voit juste sa parole a été prononcée. Donc, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Gloire à Dieu. Donc, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on va dire, « Oui, mais pasteur, aujourd'hui, on est dans la dispensation de la grâce. » Tout est accompli en Jésus. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter nos besoins vers le Seigneur? Bien, je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, où on voit l'apôtre Paul qui donne les informations, les consignes à son fils spirituel Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Des requêtes. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous pouvons encore avoir des requêtes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, admettons que quelqu'un est malade. Comment est-ce qu'on peut réagir? On comprend notre position biblique. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il y a 2000 ans, Jésus l'a déjà accompli. Jésus a déjà payé le prix pour que je sois guéri. Et dans ma position en Christ, je suis guéri. Ma condition humaine, qu'est-ce que je peux faire si j'ai une épreuve dans mon corps? J'ai un défi, par exemple. J'ai quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Dieu m'appelle à faire une négation ou dire, « Maintenant, Seigneur, j'ai un besoin et je te présente mon besoin par la foi, croyant dans l'œuvre de la croix, croyant que tu as tout accompli pour moi et aujourd'hui, je reçois la provision. » Qu'est-ce qui est important pour nous dans l'équilibre que le Seigneur veut pour nous? Quelqu'un a la grippe, admettons. Quelqu'un se met à éternuer. Il se promène avec sa boîte de Kleenex, OK? Et là, par un désir de marcher par la foi, là, on va nier qu'on a la grippe. On va, tchoum, tchoum! Qu'est-ce qui est important? C'est de dire, Seigneur, j'ai un besoin. J'ai un besoin, je prie maintenant. Seigneur Dieu, j'ai ce besoin que tu connais. Maintenant, Seigneur Dieu, je viens prendre par la foi mon héritage en toi, et je te demande maintenant que ta vertu guérissante coule de la tête aux pieds, maintenant, au nom de Jésus, et je reçois ma guérison au nom de Jésus. Ça va faire plaisir au cœur du Père, parce qu'on n'a pas fait une négation, mais on a identifié un besoin, et là, on a reconnu la solution qui est en Jésus-Christ. On reconnaît notre solution, c'est Jésus. Le problème, c'est quand on fait une négation et on a peur. On pense qu'on ne peut pas partager nos besoins. C'est correct d'avoir un besoin, mais qu'est-ce qui est mauvais? L'extrême, écoutez bien. L'extrême, c'est quand on a un besoin et on se définit par le besoin et c'est notre identité. Et là, au lieu de croire Dieu pour la provision surnaturelle de guérison, qu'est-ce qu'on fait dans nos cœurs? C'est que là, on marche dans cette maladie, c'est notre identité, et on ne croit pas Dieu pour la guérison, parce que notre identité, c'est telle maladie. Admettons, quelqu'un souffre de diabète, et là, la personne peut dire, « Je suis diabétique. » Et là, ils marchent comme ça, et c'est leur identification. Mais au lieu de dire ça, ce qu'on peut dire, j'ai présenté mon besoin au Seigneur. J'ai été attaqué dans mon corps avec telle maladie, mais aujourd'hui, je crois que j'ai reçu ma guérison. Donc, ma position aujourd'hui, c'est je combats le diabète. Voyez-vous la différence? Si on ne voit pas de différence, on tombe dans l'extrême. Dieu nous appelle à marcher dans la foi, on présente notre besoin et par la suite, on remercie le Seigneur pour la provision surnaturelle qu'il nous donne. Et là, au lieu de dire « je suis diabétique », non, je combats le diabète au nom de Jésus et je reçois ma guérison. Oui, mais là, je vois des symptômes dans ta vie, tu n'es pas guéri, regarde, là, tu n'es pas guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Là, on parle comme ça. C'est pas de dire, non, j'ai jamais eu, c'est pas de faire une négation. Non, devant une situation actuelle, il y a un problème, il y a un besoin, mais je connais celui qui est capable de répondre à ce besoin-là. Voyez-vous, si vous tombez dans l'extrême, un camp ou l'autre, on a un problème. Nous croyons Dieu simplement pour la manifestation de sa provision. C'est ça qu'on veut faire. Il y a un besoin, il y a un problème, il y a cette attaque-là. Peu importe la chose qui vient du royaume des ténèbres, on peut voir, on est en guerre, mais au moins on connaît celui qui est victorieux. Et on se cache en Christ pour la provision qui est en nous, qui est en lui plutôt, pour nous. Comprenez-vous ce matin? Est-ce que ça fait du sens ce matin? Donc, quelque chose vient contre vous. Vous avez une épreuve, peu importe, vous avez un besoin. ce que Dieu vous attend de vous, c'est que vous puissiez toujours tourner vos regards vers le Père, présenter votre besoin dans la prière et par la suite recevoir par la foi la réponse. Ensuite, vous rentrez dans cette dimension de reconnaissance et vous êtes dans votre maison et vous louez le Seigneur parce que la provision est en Jésus, parce que le miracle est dans le Seigneur, parce que votre délivrance est en Jésus-Christ. Et là, quelqu'un vous dit, peu importe, est-ce que tu as telle maladie, telle chose, on ne parle pas de la maladie. Ce qu'on veut faire, on va dire, je crois à ma guérison, je crois dans la provision du Seigneur. Peux-tu prier avec moi pour la guérison? Veux-tu joindre ta foi avec la mienne pour la manifestation de cette guérison-là? Parce qu'en fait, vous savez, en Christ, nous sommes déjà guéris. Le 2000 ans, je suis déjà guéri. Mais là, c'est le diable qui essaie de me faire à croire que je suis malade. Là, c'est simplement dans ma condition humaine que l'ennemi il m'attaque à ce niveau-là. Mais là, ce que je veux voir, c'est la manifestation de la vérité de qui je suis en Christ, qui est le guéri de l'Éternel. Amen. Donc, on ne fait pas de négation, on ne fait pas semblant, mais on est plus, même, qu'est-ce qui est merveilleux, on est dans un état de combat. Je combats la maladie. Je ne suis pas celui qui reçoit la maladie, qui s'identifie. Non, mon identification est en Christ. Je suis le guéri de l'Éternel. Mais en ce moment, j'ai un défi. Frères et sœurs, voulez-vous prier avec moi? On va combattre ces choses-là. Et si des fois, ma foi vient fatiguée, savez-vous, des fois, là, quand on combat quelque chose, le combat de la foi, des fois, est-ce que ça se peut qu'on peut être fatigué? Ça se peut, hein? Moi, je peux vous dire, des fois, on vient fatigué. On a besoin des frères et des sœurs. Écoute, là, de Saint-Cy, là, je crois Dieu, là, mais j'ai besoin du soutien. J'ai besoin de quelqu'un qui va prier avec moi, qui va m'encourager dans la foi. L'extrême? Ah! Toi, tu as des besoins. Alléluia, moi, j'en ai pas besoin. Je suis tellement sanctifié, glorifié. Ce que Dieu veut, qu'on soit compatissant avec les gens. Soyons compatissants. Voyez, moi, là, mon cœur, là, je ne peux pas croire autre chose que ce que je crois parce que c'est la Bible. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. En même temps, Dieu m'appelle à aimer les gens. Aimons les gens. Aimons les gens qui vivent des choses difficiles. Et puis là, quelqu'un vit quelque chose de difficile, on va les aimer. Et on ne va pas dire, ben, peut-être Dieu veut que ça. Peut-être Dieu veut que tu sois malade comme un chien. Là. C'est peut-être ça. Il y a des choses à changer dans ta vie. On ne va pas commencer à inventer des niaiseries. Non! Non! C'est vrai, c'est toujours, on dirait on a de la misère. C'est comme, ah oh, ben là, tu t'es fait piquer par une abeille. C'est parce que tu piquais les autres, les personnes dans le dos, là. Tu picossais, là, tu t'es fait piquer. C'est prophétique en plus, là. Non, mais c'est vrai. Le problème, c'est toujours, regarde, vous avez un problème, un défi. On va croire Dieu avec vous. Jamais ce qu'on va dire, ah ben là, t'es malade, on va pas croire. Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. T'as été éprouvé, attaqué. Notre position, là, on s'en vient avec toi. On va croire Dieu pour ta guérison. Quand quelqu'un est malade, savez-vous qu'est-ce qu'on fait à l'Église? On leur donne des CD d'enseignement pour, premièrement, qu'ils puissent connaître que Dieu est bon, que Dieu, le Père, veut qu'ils soient en santé. C'est ça qu'on donne. Après, on donne des CD de louange, d'adoration pour qu'on puisse vraiment baigner dans la présence de Dieu et être dans une position d'attente et de réception. On croit Dieu. Et là, oh, c'est merveilleux, on prie pour les personnes, on oint d'huile, on croit Dieu. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et marcher dans l'amour. Amen! Si quelqu'un là, vit des épreuves, la dernière chose qu'on a besoin, c'est le jugement des gens. Amen! Je dis amen à moi-même. Amen! Gloire à Dieu! Romains 4, 17. Si vous dites, oui, mais là, pasteur, toi, tu es extrémiste, tu dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, mais regarde, là, tu n'es pas guéri, tu as telle affaire. Dans Romains 4, 17, ça dit, Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je peux être dans la vérité de la parole de Dieu et dans ma condition humaine avoir des défis quand même et des attaques. Mais en Christ, je suis guéri, c'est ma position en Christ, je crois ça. Et jusqu'à temps que je vive la manifestation, je ne me déplacerai pas de cette place-là. De foi, je crois Dieu, je crois Dieu, je crois Dieu. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça, je suis béni de vous prêcher ça, même si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas béni de l'entendre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'équilibre, êtes-vous toujours là ce matin? Dites, je ne suis pas confus, je crois Dieu, d'une façon équilibrée. Amen, c'est tellement merveilleux. Là, on donne un coup de pied au diable qui veut qu'on soit déséquilibré, qui veut faire croire toutes sortes de choses pour nous détruire dans notre témoignage. Mais non, on est des personnes de foi, on croit Dieu, mais en même temps des personnes de compassion. Gloire à Dieu pour ça. L'équilibre se retrouve également dans notre entourage spirituel. Donc, on a vu l'équilibre se retrouve dans la parole de Dieu, mais l'équilibre se retrouve également dans notre entourage spirituel. Là, je vais vous poser des questions ce matin pour vous faire réfléchir à ces choses-là. Avons-nous de bons mentors spirituels? Avez-vous de bons mentors spirituels? Je vous pose la question. Pensez pendant quelques instants, qui est votre mentor spirituel? Pensez à la personne en ce moment. C'est quelle personne dans ma vie que je peux voir? Cette personne-là me donne un bon modèle de Jésus-Christ dans votre vie là, quotidienne. C'est qui? Une personne que vous voyez, moi je peux dire, cette personne-là, vraiment, là, c'est une personne modèle pour moi. Là, on va aller ensemble dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 17. Une des choses super importantes, votre vie spirituelle, votre vie de foi sera équilibrée si vous êtes entouré par des gens équilibrés. C'est vrai. Si vous êtes entouré par des gens qui sont déséquilibrés, ça peut vous nuire dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle. Avez-vous remarqué ce matin que ce message pastoral? Ça, ça donne que je suis un pasteur. C'est important pour nous d'être équilibrés. Avons-nous de bons mentors spirituels? Matthieu 7, versets 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils font Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Ils sont là pour vous voler. Vous les reconnaîtrez. Ah, je suis tellement content que le Seigneur Jésus nous dit, il va y avoir des loups. Mais il nous dit aussi comment les reconnaître. Hein, il ne nous dit pas, ben là, on va vous bander les yeux, puis là, vous ne pouvez pas les reconnaître. Non, au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Dites, ah! Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits et les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Les orangiers, ça se dit-tu ça? Ça, c'est pas un pommier, c'est plus facile. Les pommiers ne produisent pas des melons d'eau. Hein? Ça ferait pas de sens, ça serait très lourd aussi. OK, je suis en train de perdre mon idée. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est important pour vous d'arrêter pendant quelques instants et penser, quelles sont les personnes dans ma vie qui m'influencent? Est-ce que j'ai des bons mentors pour m'inspirer vers le haut ou est-ce que je suis entouré par des gens toujours négatifs? Là, je suis tellement béni. Là, 2-3 semaines, le Seigneur m'a mis à cœur la prédication que je vous donne aujourd'hui. Et je suis béni de vous la donner parce qu'on est en train de donner un coup de pied au diable. Parce que là, vous allez discerner des choses et vous allez vraiment être protégé par Dieu. Parce que le Seigneur vous donne des yeux, là. Toi, diable, là, fatigant, là, tu débarrasses. Écoutez bien, même si quelqu'un vous a conduit au Seigneur, si, admettons, vous dites, ben, mon mentor, c'est la personne qui m'a parlé de Jésus. OK, même si quelqu'un vous a conduit au Seigneur, il n'est pas nécessairement votre mentor. Faites attention à ça. Des fois, là, quelqu'un nous a conduit au Seigneur, mais après, on les voit aller, puis on se dit, est-ce que c'est ça que je veux vivre, moi? Des fois, le Seigneur va se servir d'une personne pour nous parler de Jésus. Là, on entend le message qu'on peut te pardonner gratuitement. Hey, c'est merveilleux, je peux te pardonner de mes péchés. Mais après, la personne, ils vous ont donné ça de bon, mais le restant de leur vie, là, c'est vraiment pas trop bon. OK, admettons, une personne qui, je ne sais pas, ne va jamais à l'église, ou une personne qui va à l'église, mais change aux 3 semaines. Ah, bien, ce pasteur-là a dit une chose que je n'ai pas aimée, j'ai changé d'église. Et là, vous voyez une personne peut-être qui a été comme meurtrie, brisée dans le passé, quelqu'un rebelle qui parlait contre les autorités. Faites attention. Au début de votre vie chrétienne, si vous vous entourez par des personnes qui critiquent le leadership, faites attention, moi je me tasserai au plus vite. Parce que Dieu ne bénira jamais des personnes comme ça. Donc, vous avez des mauvais mentors, si c'est votre cas. C'est super important ce que je vous dis aujourd'hui, parce que les personnes dans vos vies, c'est des gens qui vont vous influencer pour le bien ou pour le mal. Moi, là, j'ai voulu m'entourer par des personnes qui croyaient Dieu, qui croyaient à sa parole, qui voulaient marcher dans l'obéissance à sa parole. Et savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Quand on marche avec des gens de foi qui croient Dieu, bien, on est encouragé, puis la marche chrétienne est plus facile à vivre. Imaginez, c'est même comme dans les sports. Vous êtes là, admettons, vous jouez au soccer et le but, c'est là-bas. Et là, vous avez des gens qui sont là, allez, vas-y. Et là, moi, je ne suis pas vraiment super sportif, mais là, les gens m'encouragent, vas-y, vers le but. Mais là, j'ai des chrétiens qui viennent à côté de moi, qui m'enfargent. Non, va pas dans ce but-là, va-t'en vers le haut, la scène de sauter, là. Ça va mélanger, ça, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe souvent dans nos vies spirituelles. Dieu nous donne un but à atteindre, une destinée, mais là, on se fait avoir par des gens qui viennent nous déconcentrer, nous faire prendre toutes sortes de mauvaises routes. Donc, posez-vous la question, la personne dans ma vie, est-ce que c'est une personne stable dans les voies de Dieu? Est-ce que la personne qui est vraiment un modèle pour moi, que j'ai pris comme modèle, est-ce que cette personne-là est stable? Dites stable. Est-ce que cette personne est impliquée dans son église locale? Est-ce qu'elle est impliquée? Si vous dites, ben, c'est mon modèle spirituel, mais n'a jamais servi dans une église locale, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi cette personne refuse de s'investir? Est-ce que peut-être elle n'a pas les bonnes priorités ou peut-être elle refuse de se soumettre aux autorités? Je ne le sais pas, mais on peut se poser la question. Deuxième question, quel est son historique spirituel? Si cette personne-là, en 10 ans, a changé d'église 20 fois, il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez un mauvais mentor. Ne prenez pas un mentor comme ça. C'est mauvais pour vous. Se croit-il supérieur aux leaders constamment? Est-ce que c'est une personne qui parle contre les leaderships, qui change d'église, comme à chaque fois qu'ils sont frustrés, au lieu d'amener une restauration et au lieu d'affronter, dire, écoute, j'ai une chose qui ne va pas, pouvez-vous m'aider? Et puis là, il y a toujours une façon de parler des choses. Mais si vous avez un mentor qui n'est pas stable dans les voies de Dieu, et là, c'est vraiment votre modèle spirituel, bien devinez, vous ne serez pas stable non plus. C'est vraiment la réalité. Donc, vous voulez des modèles stables. Vous voulez des gens qui portent de bons fruits. Et c'est facile à voir. Des fois, quelqu'un m'a posé la question, mais comment est-ce qu'on peut vraiment voir si une personne est un loup? Quelqu'un qui vient juste faire des ravages, juste pour détruire, travailler par en arrière, pendant que les troupes essaient d'avancer pour le royaume de Dieu. Il y en a qui sont toujours en train de faire des choses en arrière, sans que les autres le sachent. C'est en secret, c'est retiré. C'est pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est par leurs fruits. La Bible nous dit, c'est par leurs fruits. Si on regarde une personne puis on voit il y a 20 ans de fruits pourris, il y a un problème. C'est vraiment, vraiment vrai. Il faut qu'on s'arrête puis qu'on y pense. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez eu un mauvais modèle dans votre vie et vous dites, est-ce que je veux ma vie comme cette personne-là? Une personne qui a des mauvais fruits dans sa vie, c'est pas juste à l'église que ça va aller mal. Dans sa vie personnelle, ça va aller mal. Savez-vous, des fois, on connaît des gens, ils ont toutes sortes de plaintes sur les gens qui les entourent, mais c'est jamais eux le problème. Ouch, ça fait mal à quelqu'un des fois. C'est pas la planète au complet qui n'est pas correcte. Des fois, c'est nous. C'est-à-dire que si votre modèle est toujours une personne parfaite, posez-vous la question aussi. Ah, ça vous fait mal, là, ce matin? Dieu vous appelle à faire une inspection de fruits. Pas dans le sens où vous allez voir la personne. Ah, finalement, tu es vraiment un mauvais modèle, je te vois aller. Je te donne un 5,5 sur 10. Non, c'est pas ce que Dieu vous dit. Personnellement, examinez vos mentors. Examinez. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est super spirituel, c'est super important. Examinez vos mentors. Dites, est-ce que cette personne aime le Seigneur de tout son cœur? Est-ce que je vois la consécration dans sa vie? Est-ce que c'est une personne fidèle dans l'Église? Est-ce que c'est une personne qui aime servir le Seigneur? Est-ce que c'est une personne qui sait s'adonner avec les frères et les sœurs? Est-ce que c'est une personne de prière? Est-ce que c'est une personne qui veut servir Dieu avec un cœur rempli de joie? Il y a tellement de choses, on peut voir. Est-ce que cette personne porte de bons fruits dans sa vie. Et si vous dites, oui, mon mentor là, m'inspire à aller vers le haut, mon mentor me bénit, mon mentor est là aussi pour m'aider, m'encourager, bien, gloire à Dieu, célébrez votre mentor. Sortez-le au restaurant. Achetez-y une poutine au nom de Jésus. Non, mais c'est vrai. Célébrez votre bon mentor. Célébrez-le si vous pouvez. Des fois, ça peut être quelqu'un à la télévision et vous n'avez pas accès, mais moi, je parlais dans votre quotidien, quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez, une personne dans votre vie, que ce soit une personne qui est vraiment stable et qui aime le Seigneur. Recevons-nous des messages équilibrés également? Une autre chose, quand je parle de votre entourage, recevez-vous dans votre vie des messages équilibrés? On va aller ensemble dans Philippiens, chapitre 3, versets 18 à 19. Parce que c'est bien beau avoir de bons mentors, mais si vous vous exposez à des enseignements déséquilibrés, devinez qu'est-ce qui va se passer avec vous. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais si la parole que vous entendez, c'est toujours une parole déséquilibrée, vous allez vivre d'une façon déséquilibrée, et ce n'est pas ça qu'on veut pour vous. On veut que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies, et qu'on puisse voir vos vies et dire, cette personne-là, c'est une personne de foi. Elle croit à Dieu, peu importe, même si elle ne comprend rien des fois. Là, on voit, là, elle ne change pas d'idée. C'est une personne, elle croit à Dieu, peu importe. Hey, c'est quelque chose, ça. Hein? Est-ce que c'est possible? Moi, j'aime ça. Quelqu'un, je ne comprends pas. C'est correct. Moi, j'ai lu un bon livre l'autre fois sur la guérison divine. Le chapitre qui m'a le plus béni, savez-vous c'est lequel? On disait toutes les raisons pourquoi des fois les chrétiens ne recevaient pas leur guérison. Mais le chapitre qui m'a le plus béni, c'est le dernier qui disait « I don't know ». Je ne le sais pas. C'est bénissant. Pouvoir dire, nous les êtres humains, on ne comprend pas tout, mais on croit Dieu quand même. Amen. Amen. OK, recevons-nous des messages équilibrés. Philippiens 3, 18 à 19, c'est-à-dire, car il en est plusieurs, écoutez, dites plusieurs, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Des gens ennemis de la croix, là, ce que Jésus a fait pour nous. Je vous en ai souvent parlé. L'apôtre Paul en a souvent parlé, en plus, des gens qui étaient ennemis de la croix. Et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Remarquez bien ici. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ah, ça, c'est super important. Ici, là, si vous êtes équilibré, n'écoutez pas des gens qui prêchent pour leur ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui prêchent pour l'argent, qui sont là juste pour recevoir. Je vais vous dire des belles choses pour que vous puissiez donner. Je vais toujours dire des choses pour flatter le sens du poil parce que vous allez m'aimer, vous allez contribuer, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ce qu'on a besoin en tant qu'enfant de Dieu, c'est des messages qui viennent de Dieu. Quand le pasteur prie et demande, « Seigneur, quel est ton message? » et que ça lui tente ou que ça ne lui tente pas, il va le prêcher quand même. C'est ça qu'on a besoin. Mais des fois, on peut dire, « ben moi, je veux juste écouter des gens qui me font plaisir, qui me font du bien. Je sens toujours une petite chaleur, une petite douceur, un petit... » Mais c'est pas ça que vous avez besoin. Parce que là, admettons, vous êtes en chemin vers le précipice. Il n'y a personne qui vous dit, « Hey, il y a un précipice devant toi. » Ah, mais au contraire, il dit, « Ah, continue comme ça, t'es un winner, t'es un winner. » Et là, vous marchez vers le précipice. Tout le monde vous encourage, « Hey, alléluia, winner, winner, gagnant, gagnant. » Et là, vous tombez dans le précipice. Vous aimeriez quelqu'un qui vous dirait, « Oh, attends là, arrête, tu vas mourir là, il y a un précipice devant toi. » Ben, ça défait mes plans, j'aime pas vraiment ça, j'avais prévu, mais vous avez besoin... des fois, d'être dérangé. Alléluia! Amen. OK, écoutez bien. 2 Timothée 4, versets 2 à 4. Là, je vais vous donner un verset qui parle que des fois, on a besoin d'avoir des messages de la parole de Dieu qui nous dérangent. Prêche la parole, dans 2 Timothée 4, 2 à 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On va juste vouloir entendre des belles choses, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voulez-vous suivre des fables ou la parole de Dieu? On veut la parole de Dieu. Ben moi, je veux la parole de Dieu. Voulez-vous la parole de Dieu? Bon, on veut la parole de Dieu. Donc, parfois, le Seigneur va permettre qu'on entende des messages qui ne nous béniront pas l'instant même, mais dans 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 2 ans, on va voir les fruits. Amen! Parce qu'on avait besoin. On avait besoin d'entendre ça pour être équilibré et béni. Certains recherchent la bénédiction sans rechercher celui qui bénit, au lieu de rechercher celui qui bénit. Vous savez, moi, là, mon cœur, je recherche Dieu, la présence de Dieu, qui est ma source en toutes choses, et je sais qu'il me bénit. Je sais que le Seigneur me bénit dans ma vie. Mais si on se met à chercher la bénédiction, et on veut juste entendre des personnes qui nous prêchent juste sur la bénédiction, on a un problème. Vous savez, en 2004, quand le Seigneur m'a donné l'appel pour la francophonie, le message qu'il m'a donné, c'est le message de la bénédiction. Savez-vous pourquoi? Au Québec, on n'a pas entendu parler de la bénédiction. On a entendu parler que Dieu était là avec son bat de baseball et à chaque fois qu'on se trompe, il est là pour nous assommer. C'est ça qu'on a entendu au Québec. Donc le Seigneur, pour ramener l'équilibre, où on avait cru que le bon Dieu était rendu vraiment méchant, là l'équilibre, le bon Dieu, là, ça donne qu'il est encore bon. Donc, l'équilibre, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu comme message qu'on amène à la francophonie? C'est un message de bénédiction où la malédiction qui règne dans nos églises et qui règne dans notre société a été renversée par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut marcher dans la bénédiction. Mais savez-vous le problème? C'est quand les gens ne discernent pas et puis on entend des prédicateurs qui prêchent uniquement la bénédiction sans vous donner un menu équilibré. Là, on se dit, mais pourquoi ils prêchent toujours sur la bénédiction qui comprend plein de choses, là? La bénédiction, vous savez, c'est plein de choses, vous pourrez écouter la série. Mais là, il y a des gens, on dirait, ils prêchent toujours l'argent. On dit, mais c'est quoi l'affaire? Est-ce que Dieu bénit financièrement? Oui. Est-ce que Dieu guérit? Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la parole de Dieu qu'on a besoin d'entendre, des fois? Oui. Comme aimer votre prochain. Amen. Être rempli de compassion, ne pas être égoïste, ne pas être arrogant. Ah, mais ça, la conférence, ne pas être arrogant, ça ne m'intéressait pas trop. La conférence, repentez-vous donc et convertissez-vous. J'aime mieux celle prospérité 101. Comprenez, je crois dans le Dieu qui bénit ses enfants. Je crois dans toutes ces choses-là. Vous devez croire ça. Pourquoi? Parce que c'est la Bible. Moi, je ne comprends pas quand les gens, des fois, ils catégorisent les gens. Ils disent, ah, ben ça, c'est le camp de la prospérité. Ça, c'est le camp de si. C'est le camp de la victoire. Le camp de si, le camp de... Il y a un camp, c'est le camp de la Bible. Mais regardez bien, le camp de la Bible, ça donne qu'il y a toutes sortes de doctrines là-dedans, dans la parole de Dieu. Amen. Il faut juste être équilibré. Moi, là, en tout cas, qu'est-ce que mon cœur, là? On va croire Dieu. Puis même si à côté de nous, il y a quelqu'un qui va dire les mêmes paroles que moi, avec des mauvais motifs, qui est là, qui va prendre les mêmes textes pour d'autres raisons. Qu'est-ce qui est important pour nous, les enfants de Dieu? C'est de connaître les motifs du cœur. Écoute, c'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est juste Dieu qui connaît les cœurs. Mais vous avez le discernement et le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit en vous qui va être là, là. Le Saint-Esprit, en anglais, je dis un check. Il nous donne un check. Quand quelqu'un, là, vous prêche toujours des choses pour faire du bien, là, juste pour vous flatter sans du poil, à quelque part, en dedans de vous, vous devriez savoir que la personne, là, c'est un charlatan. Excusez, est-ce que je peux être honnête avec vous? C'est un charlatan, il est là pour des mauvaises raisons. Mais quelqu'un qui va vous dire, oui, Dieu vous aime, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous restaurer, puis en même temps, Dieu vous appelle à demander pardon à votre frère. Bien là, OK, il y a des choses, oui, il va me dire les bonnes choses de la parole de Dieu, mais en même temps, les choses que j'aime moins. Puis, ouais, mais l'autre pasteur m'a dit une chose que j'aime pas. Moi, change d'église. Bien, vas-y, change d'église. Ça ne change rien. Je ne changerai pas qu'est-ce que je prêche. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Un menu dans un resto, vous allez toujours à la cantine manger, puis vous mangez juste de la poutine. Bien, c'est sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais après 20 ans, là, peut-être vous ne passerez plus dans la porte. Mais ce que vous avez besoin, c'est pas le menu. C'est l'affaire, on ne peut pas juste se nourrir de ce qu'on aime. Les enfants, on leur dirait, mange de la poutine, tu sais, 7 jours par semaine. Et, ah oui, je trippe, là, des hamburgers, des poutines, tout ça. Mais Dieu nous appelle à avoir le menu, pas du resto, de la cantine. Dieu nous appelle à avoir le menu d'un parent. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Notre père et notre mère, qu'est-ce qu'ils vont nous servir? Ils vont nous servir des légumes. Ils vont nous servir du brocoli. Mais ça ne me tente pas, du brocoli. Tu en as besoin. Oui, mais je veux des frites. Oublie les frites, mange du brocoli. Amen. Amen. L'équilibre. Mon dernier point, et je termine dans 2h30. Mon dernier point. L'équilibre, on a vu jusqu'à présent, se retrouve dans la parole de Dieu. Amen. L'équilibre se retrouve dans un entourage équilibré, des gens de foi qui croient Dieu, peu importe, même s'ils ne comprennent pas tout. Et la dernière chose, l'équilibre, en même temps, se retrouve dans notre Dieu d'amour. Dans notre Dieu. Notre Dieu, parce qu'on n'est pas dans une religion. On est dans une vie personnelle, intime, dans une relation avec Jésus-Christ. C'est ce qu'on vit. C'est une relation avec Dieu. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on vit. L'équilibre se retrouve dans notre Dieu d'amour. La question que je vous pose aujourd'hui, avez-vous une bonne relation avec votre Dieu d'amour? Avez-vous une bonne relation d'établir avec lui? Parce que si vous êtes une personne remplie de jugement, qui manque de compassion pour les gens, peut-être que vous n'avez pas encore goûté à l'amour de Dieu personnellement dans vos cœurs. Prenez le temps aujourd'hui et dites, comment est-ce que je traite les gens? Quelle est mon attitude envers les gens dans la vie en général? Est-ce que je suis une personne dure ou est-ce que je suis une personne remplie de compassion pour les gens perdus? Quelle est votre attitude? Il y a une personne à la caisse, admettons, vous êtes là au dépanneur et la personne est bête. Quelqu'un qui est bête, oui. Bonjour, madame. Ça va bien, une belle journée ensoleillée, hein? Non, mais passez le défi. Quelqu'un bête comme ses pieds, vous êtes souriant. Vous resplendissez l'amour de Dieu. Mais on pourrait être comme, oui, hey, je m'en vais payer. On peut être aussi bête, hein? Mais on peut être rempli d'amour. Quelqu'un bête? Nous autres, gentil. OK. OK. Avez-vous goûté à la grâce de Dieu pour vous-même? OK, là, on lit un autre verset, OK? On a presque terminé. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Ici, je vais vous parler de l'amour. Parce que vous savez, vous pouvez avoir toutes les bonnes doctrines, la bonne compréhension, de la confession, de la guérison, la provision de Dieu, toutes les bonnes choses. La foi, vous connaissez ces choses-là. Mais si vous n'avez pas de l'amour, vous n'êtes rien, la Bible dit. Ça, c'est un déséquilibre. Connaître, mais pas avoir l'amour de Christ en nous. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, ça dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à être transporté des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Qu'est-ce qui est important pour Dieu, là? Ah, l'ignorance de la parole. Non, on a l'institut biblique parce qu'on croit que c'est important de connaître la parole de Dieu, connaître qui on est en Christ, ce qui nous appartient. Mais une fois que vous connaissez ces choses-là, là, votre devoir numéro un, c'est d'être imbibé de l'amour de Dieu. Imbibé de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un vous fait une caresse, ils reçoivent l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est communiqué. C'est ça la chose la plus importante. Ce n'est pas ce que vous connaissez de la parole de Dieu, mais c'est ce que vous dégagez. Si vous dégagez l'amour de Dieu, les gens, là, même si vous ne connaissez pas toutes les choses de l'école biblique encore, même si vous êtes ignorant sur plein d'affaires, s'ils ressentent l'amour de Dieu, savez-vous, là, ça va les toucher. Ils vont être bénis, ils vont être heureux. L'amour de Dieu, c'est ça qu'on a besoin. Et le pasteur se dit « Amen » lui-même. Amen, pasteur Joël. Tu prêches bien, là. Savez-vous laisser Dieu aimer à travers votre vie? Savez-vous? Aujourd'hui, je vous pose la question. Savez-vous vraiment laisser Dieu aimer à travers votre vie? Pour être un canal pour les gens. Je vous pose la question. Je le repose, là. Savez-vous vraiment laisser Dieu aimer à travers votre vie? Ben moi, je sais que Dieu m'aime. Oui, moi, je reçois. Oui, mais par la suite, savez-vous laisser vraiment Dieu aimer à travers vous? Être un porte-parole de l'amour de Dieu. Quelqu'un vit une difficulté dans le monde, en dehors de l'Église. Quelqu'un vit quelque chose de difficile. Êtes-vous une personne remplie d'amour pour la personne? Avez-vous des paroles d'amour pour la personne, pour leur donner l'espoir que Dieu est capable d'intervenir dans leur vie? Êtes-vous une personne sensible aux besoins des gens? Romains 12, versets 15 à 16, il est écrit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Ça, c'est facile. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ici, là, c'est un commandement. Avez-vous remarqué? Pleurez avec ceux qui pleurent. L'autre fois, on était à table à la maison, puis mes filles ont dit, « Papa, on ne t'a jamais vu pleurer. » Sauf à l'église, là, quand je pleure devant tout le monde. Mais c'est vrai, il faut prendre ça au sérieux. La Bible dit, « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ben moi, j'ai de la misère à pleurer, là. Comme ça. M'a forcé, là. Je ne pleure pas naturellement à la maison, comme ça, là. À moins de me frapper le doigt ça, avec un marteau, là. Ah! Non, mais je ne pleure pas très facilement. Mais la Bible me dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ensuite, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ça veut dire, quelqu'un vit quelque chose de difficile qui amène la personne à pleurer. Vous étant une personne de foi, vous qui connaissez les vérités de la parole de Dieu, vous qui connaissez la source de la solution, vous connaissez la solution, vous connaissez les principes spirituels, comment parlez-vous avec la personne? Parlez-vous d'une place de connaissance, de froideur, ou parlez-vous d'une place de connaissance remplie de compassion? Vous savez, quand j'étais le pasteur qui était sur la scène, quand il y a un jeune homme de 29 ans qui est décédé, sa femme est enceinte, avec son bébé, bien sûr, puis avec l'autre petite fille. Il n'y avait rien à l'école biblique qui pouvait me préparer à savoir comment intervenir dans cette situation atroce. Qu'est-ce que j'avais besoin et qu'est-ce que Mathilde et moi, on avait besoin? C'était d'être dépendant sur le Saint-Esprit pour savoir quoi dire à une maman qui venait de perdre son mari de 29 ans, une femme enceinte avec son enfant. j'avais rien prévu, j'avais pas de discours de préparer, j'avais pas un texte mémorisé. C'est l'amour de Dieu à ce moment-là qu'elle avait besoin. C'était un bras qui était là pour lui dire, écoute, je comprends rien en ce moment. Je suis pas arrivé à dire, ben c'est parce que si, ça. Non, je comprends pas moi non plus. Mais ensemble, là, on va passer à travers. Ensemble, on va prier Dieu. Ensemble, je vais prier que la grâce de Dieu vienne dans ta situation. Et savez-vous, là, j'ai commencé à parler de la gloire du ciel, ce que son mari vivait. Là, je commençais à lui donner de l'espoir. Êtes-vous capable d'être sensible et connaître les besoins des gens? Je pose la question. Si on n'est pas sensible quand les gens sont dans le besoin, si on ne sait pas pleurer avec ceux qui pleurent, on a beau avoir toute la connaissance, mais la Bible nous dit on est des riens. On ne peut pas être utilisé entre les mains de Dieu parce qu'on n'a pas l'amour. Donc, oui, connaissons la parole de Dieu. Oui, connaissons notre héritage. Oui, soyons des personnes de la parole, des personnes qui marchent dans la foi. Et c'est tout, vraiment tout à cause de l'œuvre de la croix. On ne mérite rien. Mais là, par la suite, le même verset, au verset 16, ça dit, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Ça veut dire, soyez humbles. Marchons dans l'humilité. Marchons dans l'amour avec la délicatesse pour les besoins des gens. Savez-vous vous identifier aux personnes qui souffrent aujourd'hui? Je pose la question. Savez-vous vous identifier avec les gens qui souffrent? Et si aujourd'hui, vous dites, « Mais pasteur, il y a plein de choses que tu as racontées. Là, je vois, j'ai besoin de faire du ménage dans ma vie. Peut-être j'ai un mentor aujourd'hui qui me pousse toujours à aller dans une mauvaise direction. Peut-être j'étais insensible face aux besoins des gens. » Je veux juste rajouter une dernière chose en terminant. Ma dixième conclusion. L'autre extrême, il y a des gens dans la vie qui veulent souffrir, qui aiment ça, l'attention de la souffrance. 30 ans de vie chrétienne sont à la même place. L'autre déséquilibre, c'est d'être dans cette place, un esprit d'apitoiement. La personne reçoit cet esprit d'apitoiement, je fais pitié, je suis victime. Pendant un temps, la personne, c'est vrai, elle a été victime, elle doit recevoir la guérison de Dieu, absolument, avec amour. 30 ans plus tard, si elle vit toujours la même chose, c'est qu'elle n'a pas reçu la guérison dans son cœur. Et des fois, il y a certaines personnes qui veulent vivre la pitié à perpétuité. Ils veulent ça. Il y en a qui c'est comme ça. C'est triste parce qu'ils pensent qu'ils vont recevoir l'amour par la pitié, mais ils peuvent recevoir l'amour par la guérison. On va vous aimer quand même si vous êtes guéri. On va vous aimer. On va vous aimer même si vous êtes guéri aujourd'hui. C'est vrai, je le sais pourquoi les gens aiment des fois avoir un esprit d'apitoiement. C'est parce qu'ils ont tellement été bridés. Ils disent, quelqu'un, aimez-moi. Quelqu'un, j'ai besoin d'être aimé. Je veux vous dire, on va vous aimer même si vous êtes guéri. On va vous aimer. Et laissez Dieu vous guérir. Laissez Dieu vous transformer. Soyons équilibrés aujourd'hui. Revenons à la parole de Dieu, mais dans l'esprit de la parole de Dieu. Ah, c'est tellement important. Je décrète aujourd'hui que c'est possible au Québec qu'on soit une église qui prêche tout le conseil de Dieu d'une façon équilibrée, avec amour, avec puissance, sans renier la puissance de la parole de Dieu. C'est possible aujourd'hui en 2012 et je dis que dans cette maison, nous serons équilibrés au nom de Jésus. Nous allons continuer à grandir, mais nous allons marcher dans la compassion et nous allons voir des âmes venir au Seigneur parce qu'ils vont avoir découvert que ce bon Dieu est bon, il n'est pas là pour les détruire. Il est là pour les restaurer, pour leur donner la vie et la vie en abondance. Je vais vous inviter maintenant à pencher vos têtes et on va juste prendre quelques instants pour prier le Seigneur. Je vais inviter l'équipe de la louange maintenant, s'il vous plaît. J'ai parlé de plusieurs choses aujourd'hui et peut-être pour certains d'entre vous, c'était comme du chinois. Peut-être c'était des concepts, des choses. Vous dites, ben moi, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là aujourd'hui. Mais si c'est votre cas aujourd'hui, je vais vous laisser savoir que ce chinois peut devenir du français pour vous très prochainement. Le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de vous faire comprendre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de comprendre ces choses-là. Parce que les choses spirituelles se discernent par l'Esprit de Dieu. Mais c'est impossible pour vous vraiment recevoir si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, je veux juste vous demander, très simplement, dire « Oui, Seigneur, je te donne ma vie ». C'est aussi simple. C'est un « oui ». Ça ne veut pas dire que j'adopte une église, c'est pas j'adopte un mouvement, j'adopte ci, non, j'adhère à ceci, je signe tel papier, c'est rien de ça. C'est un oui devant le trône de Dieu au ciel. Dieu qui est là, qui dit, mon enfant, j'aimerais ça, que tu sois avec moi pendant l'éternité. Dieu est là. Il veut vous adopter dans sa famille. Et aujourd'hui, il vous pose la question. Voulez-vous recevoir mon Fils? Voulez-vous recevoir Jésus qui a payé la dette de votre péché? Si vous dites, oui, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je vais vous inviter juste à lever votre main. Là où vous êtes, levez votre main. Et on va simplement prier avec vous. Si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ Seigneur de votre vie, vous dites, je veux lui donner ma vie aujourd'hui. Il est là. Il va vous recevoir. Vous allez passer l'éternité avec lui. Amen. Je vais vous inviter à tout le monde ici. Priez avec moi. Priez avec foi. Allez-vous le faire ce matin? J'ai pas la foi. Allez-vous prier avec foi aujourd'hui? Pour ceux qui veulent se donner au Seigneur Jésus, à la radio, sur l'Internet, peu importe dans quel pays vous vous retrouvez, le Seigneur est là, il vous attend. C'est pas trop tard, je demande la question encore. Voulez-vous donner votre vie au Seigneur Jésus? Quelqu'un qui dirait, oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Levez votre main et je vais prier avec vous. Amen. Prions ensemble. Je vais vous demander de répéter après moi avec foi. Père éternel, je crois aujourd'hui dans le message qui a été prêché. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ ressuscité. Je place ma foi aujourd'hui dans l'œuvre de la croix. Je te demande maintenant de me pardonner de tous mes péchés. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière et vous êtes devenu un enfant de Dieu, c'est tout aussi simple que ça. C'est facile pour nous, c'était difficile pour Jésus parce qu'il a payé au prix de sa vie. J'aimerais ça vous inviter à nous contacter par Internet, info@evqmedia.com, info@evqmedia.com, à la radio sur la même adresse. Et ça va nous faire un plaisir de célébrer votre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et maintenant, on va juste se lever maintenant, on va chanter le Seigneur, on va le louer. On va le remercier parce qu'il nous aide à marcher dans l'équilibre ensemble, dans l'amour du Seigneur, dans la foi, dans la victoire, au nom de Jésus. Nous déclarons ce matin que cette maison est une maison de guérison pour les nations. Nous déclarons que cette maison est une maison de guérison des cœurs brisés. Cette maison est une maison de guérison pour les corps malades. Cette maison est une maison de restauration où les gens sont en sécurité. Oh, merci Seigneur Dieu pour ton amour qui grandit ici dans cette maison, entre frères et sœurs. Merci pour ton amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour ton amour aussi qui rejoint les internautes, qui rejoint les gens à la radio qui sont là, qui reçoivent de toi. Merci pour la visitation de ton Saint-Esprit en ce jour. Merci de restaurer nos vies. Merci, Seigneur Dieu, qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir en toi. Parce que tu es un Dieu de compassion qui nous restaure. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais aujourd'hui dans cette maison. Merci pour ta bonté. Alléluia, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour la graduation qu'on va vivre ensemble à 16h. Je te remercie pour les gens qui se sont engagés, qui ont marché dans la fidélité toute l'année. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent vivre un moment béni aujourd'hui, un moment vraiment spécial de recevoir leur certificat ou leur diplôme. Oh Seigneur Dieu, je te remercie pour la présence de ton esprit qui va être avec nous également en après-midi. Merci, Seigneur Dieu, pour les choses qu'on vit ensemble. Merci pour ta main qui est dans cette place. Merci, Seigneur Dieu. Je décrète sur chaque tête maintenant le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse aussi à l'Internet, sur l'Internet.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.